Les matins de France Culture, jusqu'à 9h, Guillaume Erner.
Les fonctionnaires étaient en grève hier contre le projet de loi de transformation de la fonction publique qui sera examiné à l'Assemblée à partir de lundi. Leurs inquiétudes portent notamment sur la question du statut des fonctionnaires que le gouvernement entend moderniser, je mets ce terme entre guillemets, leader de la CGT, Philippe Martinez a rappelé que, je cite, le statut n'est pas un privilège, c'est ce qui garantit l'indépendance des fonctionnaires vis-à-vis du marché et des politiques. Alors, privilège ou garantie d'indépendance, que nous enseigne l'histoire de ce statut? Bonjour Marc-Olivier Barouic, vous êtes directeur d'études à l'EHESS et spécialiste de l'histoire politique de l'administration. Rappelez-nous à quoi sert le statut de fonctionnaire.
Bonjour, eh bien le statut c'est une très vieille demande des fonctionnaires depuis plus d'un siècle, hein, depuis la première décennie du XXe siècle. À partir du moment où il commençait à y avoir des grandes masses dans les postes, chez les facteurs, chez les instituteurs, mais aussi dans les bureaux, hein, les commis, les surnuméraires, les rédacteurs, ben ils s'aperçoivent qu'on est resté sur l'administration léguée par Bonaparte et pour laquelle, sur laquelle chacun des régimes a mis sa strate, et c'est-à-dire qu'au fond, on est dans la définition même du népotisme, on va chercher le neveu, le cousin, l'ami, et on a donc des chefs tout à fait incompétents, tout à fait bien payés, eux, alors que les agences sont mal payées. Donc l'idée, c'est d'aller vers de la professionnalisation et de la justice, et qu'on ait des chefs légitimes, et on arrive au statut. On
y
arrive.
Donc c'était pour en finir avec le népotisme, bon ça, hein. On laissera chacun décider si
c'est
réussi ou pas, mais...
Et ce qui se passe aussi, c'est que en France, on a une fonction publique qui, par essence, n'est pas contractuelle. L'agent public, il va pas négocier, décider avec l'État. L'État, dans la tradition française, il est au-dessus des agents. Et donc, l'État, le statut, ça veut simplement dire que lorsque vous décidez d'entrer dans le service public, vous adhérez à des règles que vous ne définissez pas vous, mais le Parlement.
Bon, alors, j'imagine que ce statut de fonctionnaire, il entraîne des droits et des devoirs. Lesquels, Marc-Olivier
Barouic ? Des droits et des obligations, et précisément toute l'histoire. Alors, vous savez, le grand statut, c'est celui de 1946, hein, qui est voulu à la fois par le ministre de la fonction publique, Maurice Thorez, le secrétaire général du Parti communiste, et Michel Debré. C'est pas très souvent que Michel Debré et les communistes seront du même côté. Alors, c'est le premier statut, avec cette particularité arithmétique que c'est le premier, mais il y en a eu un avant. Il y a eu celui de Vichy en 1941, à la sauce Vichy. Et ce qui va être intéressant, c'est que c'est toujours ce basculement, et qui, à mon sens, est très caractéristique. Alors, je suis d'un ancien temps, hein, j'ai eu mon bac il y a très très longtemps. À cette époque, en histoire, on considérait qu'il y avait la droite et qu'il y avait la gauche. Je sais que c'est fini, mais disons que...
Là aussi, je laisse chaque auditeur en juger.
Comme historien, en tout cas, je prends en compte... Et je crois qu'un des axes, une des caractéristiques de ce combat gauche-droite, au moins au XXe siècle, peut-être aussi un peu au début du XXIe, c'est cette idée, est-ce que quand on dit qu'un fonctionnaire est un travailleur de l'État, quelqu'un qui travaille pour l'État, le moins important, c'est travailleur ou c'est État ? Et selon les cas, on va dire, si c'est travailleur, alors il a des droits, comme tous les travailleurs. Hein, et c'est la longue conquête des droits au 19e et début du 20e siècle. Et si c'est l'État, on va dire au contraire, vous représentez toute la puissance de l'État jusqu'au plus bas. Et à ce moment-là, non, vous n'avez pas de droit de grève, vous n'avez pas de droit syndical. Et on a des débats très intéressants dans l'entre-deux-guerres, les années 30, les grandes figures du Parlement, Léon Blum d'un côté, André Tardieu, moins connu pour la droite, et on discute vraiment, est-ce que ce qui est plus important, c'est les droits ou les devoirs ?
Donc, un statut en tension, mais alors, l'emploi à vie, d'où vient-il, Marc-Olivier Barouic ? Parce que c'est aussi, bien souvent, ce que l'on retient en premier du statut de fonctionnaire.
L'emploi à vie, c'est ce qu'on pourrait appeler d'ailleurs un CDI. Hein. Et le CDI, le contrat à durée indéterminée, c'est bien par définition l'emploi à vie. Et quand on dit qu'un fonctionnaire est là pour l'éternité, enfin je veux dire,
oui,
l'éternité relative de sa durée de travail, c'est faux. Si on appliquait le statut, un fonctionnaire défaillant peut être révoqué. Certains le sont. Que l'administration ait ou n'ait pas de courage, là encore, on laissera les auditeurs se faire une raison. Il ne faut pas caricaturer les choses. Le statut, c'est pas nécessairement l'emploi à vie. Et au contraire, l'emploi presque précaire, c'est-à-dire celui pour lequel il va falloir être dans les petits papiers, dans les bonnes dispositions du gouvernement ou du ministre, c'est pas non plus un modèle souhaitable. J'ai un séminaire à l'école des hautes études où on avait invité un collègue britannique et qui nous dit une des missions essentielles du haut fonctionnaire, c'est de dire au ministre, attention monsieur le ministre, là vous faites une grosse erreur. Et il dit, ce collègue britannique disait, les hauts fonctionnaires britanniques savent ça. En France, on est très loin de cette culture-là.
La mission du fonctionnaire, Marc-Olivier Baruc, c'est de servir les citoyens ou le pouvoir en place ?
Non, c'est de servir la chose publique, la collectivité publique, évidemment. Les gouvernements passent, l'État demeure. Ça posera d'assez lourds problèmes durant l'occupation, puisqu'il y a cette continuité formelle et cette rupture essentielle. Donc là, dans des situations de crise, et c'est un peu ce sur quoi j'ai commencé à travailler il y a 20 ans, ça pose des sujets extrêmement intéressants, c'est-à-dire qui sert-on ? Et si on gratte un peu, on s'aperçoit, et alors là, il y aurait sans doute aussi beaucoup de choses à dire, que peut-être on se sert non pas soi-même, mais le groupe. Il y a une forme d'entre-soi des fonctionnaires, dont on nous dit que le recours au contrat, les allers-retours avec le privé le briseront. Je suis un peu sceptique là aussi, mais bon, mes opinions ne regardent que moi.
Et puis alors, toujours, s'il est question de savoir si on sert l'État, la chose publique, un gouvernement, l'obligation de neutralité du fonctionnaire, quand cesse-t-elle ?
C'est une des questions les plus difficiles qui soient, et il nous reste 30 secondes, mais...
On peut prendre 45.
Soyons généreux. Le fonctionnaire, c'est le Conseil d'État, hein, puis ces choses sont écrites, mais sans être précisées nulle part. Le Conseil d'État va juger qu'en fonction du niveau que vous occupez, très clairement, si vous êtes préfet et que vous dites la politique migratoire du gouvernement n'a ni queue ni tête, ne vous attendez pas à rester préfet le mercredi suivant. En revanche, si vous êtes délégué syndical et que dans tel ou tel ministère et que vous dites la politique du ministre et la politique de ressources humaines est une absurdité, là ça fait partie de votre mission. Donc on est sur... Ça pose de vraies questions aujourd'hui, notamment autour des réformes de l'ENA annoncées récemment, sur les réseaux sociaux. Parce que certains fonctionnaires, y compris dits haut ou très haut, se lâchent. Le réseau social, c'est pas du tout une lettre privée ou un coup de téléphone à votre voisin.
La même question se pose d'ailleurs pour les enseignants. Qu'est-ce que vous en pensez, Marc-Olivier Baruc ?
Alors, les enseignants et les professeurs d'université que je suis ont une liberté d'expression reconnue constitutionnellement. Donc là, à moins de dire des horreurs épouvantables et obscènes, un professeur d'université ne peut être poursuivi pour rien. Donc je crois là qu'il faut considérer que le corps enseignant et la pédagogie, ça permet de dire ce qu'on a à dire.
Merci beaucoup Marc-Olivier Baruc. Je rappelle que vous êtes spécialiste de l'histoire politique de l'administration. On a parlé des fonctionnaires, de l'engagement des fonctionnaires.